Amen, bien-aimés. Je vous ai dit tout à l'heure, et c'est en toute sincérité que je l'ai dit, que mon cœur est dans la joie d'être parmi vous. Et en même temps, vous voyez, on voit dans la Bible que le prophète Michée n'était pas forcément dans la joie de venir parler auprès des rois, et que les rois n'étaient pas forcément dans la joie de l'écouter. Alors, je suis bien sûr pas le prophète Michée ce soir, mais je crois que nous vivons des temps très difficiles. Et il est bon de se réjouir ensemble. La communion fraternelle est quelque chose de précieux, mais nous avons besoin d'entendre une parole de Dieu qui, je crois, nous réveille, que l'on puisse s'exhorter les uns les autres à être un peuple réveillé qui se tiendra debout devant le Seigneur qui vient bientôt. C'est vrai que j'ai demandé à Pasqualine s'il voulait, plutôt que j'apporte un enseignement ou une parole de salut. Et quand Pasqualine m'a dit, il y a un petit réveil qui se passe ici, l'Église prie beaucoup, il y a eu des miracles, des gens se sont approchés. Eh bien, voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur. De ne pas faire un grand message, un profond message, avec des choses profondes, mais de venir devant vous, en toute simplicité, en toute humilité, pour, je dirais, donner une parole simple, mais qui va nous exhorter à lever nos têtes. Oui, merci Seigneur, s'il y a un réveil qui commence ici, parce que je crois que l'Église a absolument besoin, non pas d'un réveil qui vient et qui s'en va, mais a besoin de vivre le réveil, jour après jour, ici dans cette salle, mais dans nos vies personnelles, dans nos familles. Si on vit un réveil à l'Église et qu'on ne vit pas un réveil dans nos familles, certains hommes de réveil ont dit que nous étions des hypocrites. Avant tout, c'est dans nos propres vies. Et oui, on a besoin d'un réveil. Et je donne gloire à Dieu et je lui dis merci qu'il se passe quelque chose parmi vous et que par sa grâce, il puisse nous aider ensemble à l'écouter ce soir. Et peut-être, je le dis humblement, bien-aimé, à nous réveiller encore plus parce qu'il est celui qui vient bientôt. Et c'est pourquoi j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans Romains chapitre 13 et le verset 11. Je crois que c'est là des versets que les pasteurs peut-être devraient marteler. Voyez, comme le dit Jérémie, sa parole est comme un marteau, elle est comme un feu. Et bien cette parole, elle a besoin d'être pour nous comme un marteau et comme un feu. Et elle nous dit qu'il importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. J'ai peu de voix. Alors je vais essayer de ne pas beaucoup crier ce soir. Mais c'est une parole que l'on doit crier ce soir. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Le jour approche. Le jour de Dieu. Lorsque vous lisez les prophètes, il est sans cesse fait mention de ce jour de l'Éternel. Ce jour grand et redoutable. Le jour de Dieu. Nous avons encore nos jours à vivre, mais vient bientôt le jour de Dieu, où il va venir dans sa gloire. Et ceux qui seront en lui, et seulement ceux qui seront en lui, et comme on va le voir, pas seulement ceux qui confesseront de leurs lèvres, mais ceux qui auront le poids de Jésus-Christ dans leur vie, ceux qui ne seront pas trouvés nus, mais revêtus de Christ, revêtus du Seigneur Jésus-Christ. Alors ceux-là seront enlevés et iront à sa rencontre dans les airs. Et ça, bien-aimé, ce n'est pas une fable, ce n'est pas une spiritualité, c'est quelque chose de réel qui vient. C'est du concret, bien-aimé. Est-ce qu'on s'est préparé? Est-ce qu'on se rend compte qu'on est fait? Nous chantions Jésus et ressuscité le troisième jour. Mon frère, ma sœur, tu es fait pour la résurrection de la chair. Tu es fait pour que ton corps soit glorifié et ait la rencontre du Seigneur de gloire. Et si le poids de Jésus, la vie de Jésus, le salut de Jésus n'est pas réellement dans notre vie, nous serons de ceux qui resteront sur la terre. Et ce jour est un jour de grand jugement, est un jour terrible où les jugements de Dieu vont s'abattre sur cette terre. Oui, ce jour approche. Alors comme le dit l'apôtre Paul, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. On peut dire ça en l'air. Mais je crois que si nous sommes là ce soir, bien-aimés, eh bien, Dieu regarde. Comme le dit le psaume 14, verset 2, l'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un d'intelligent qui cherche Dieu, qui réellement cherche l'Éternel. Et si nous cherchons l'Éternel ce soir, et si sa lumière peut venir sur nous, je crois que le but de toute prédication est d'amener la lumière de Dieu sur chacune des vies qui entendent sa parole, pour que cette parole vienne faire une œuvre de séparation dans la vie du croyant, ou même dans la vie du non-croyant, une œuvre de lumière qui le met à nu devant le Père, devant qui nous allons tous rendre compte. Alors que sa parole, nous puissions, oui, l'entendre. Et quand nous disons, nous entendons, dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres, c'est quelque chose de grand, bien-aimé. C'est quelque chose de très important. On peut dire « Amen, le jour approche. Amen, la nuit est avancée. » Et quand on dit « Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres », parfois il n'y a pas le même « Amen », vous voyez. Et pourtant, c'est capital. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, avec honnêteté, comme en plein jour. Jésus vient dans sa pleine lumière. Tout ce que tu peux cacher aux serviteurs de Dieu, à ton épouse, à ton époux, à tes enfants, tu ne peux pas le cacher à Dieu. La lumière vient, bien-aimé. Et comme je le lisais tout à l'heure, alors que nous prions en Luc vers chapitre 8 et verset 17, il est dit « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. » Si ce soir, les choses qui sont encore secrètes dans nos vies pouvaient être mises en plein jour, parce que je veux te dire, mon frère, ma sœur, il vaut beaucoup mieux que tout soit mis en plein jour ce soir, que de subtilement nous laisser avoir par le malin, par le diable, par le Satan, par l'adversaire, et garder subtilement des choses que personne voit peut-être, que nous-mêmes, on ne voit peut-être plus, mais que Dieu voit, que Dieu sait, que Dieu connaît. Tout va être mis à jour. Et vous savez, si on garde des choses, cela va être mis à jour devant tous les anges, devant tous les saints, et bien sûr devant Dieu lui-même. Parfois c'est déplorable, on a plus la crainte des hommes que de Dieu. Comme je le dis souvent, si ce soir on pouvait mettre le film de ta vie là derrière, même le film de cette journée, le film de la dernière semaine que tu as passée, qui pourrait rester le cœur paisible dans cette salle? Qui pourrait venir ici, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, avec sincérité et humilité, « Montrez-vous mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Qui peut dire cela ce soir? Qui aurait le cœur paisible si on projetait devant tout le monde toutes ces actions secrètes? Encore plus toutes ces pensées secrètes. Il y en a beaucoup qui fuiraient, qui partiraient d'ici. Et pourtant Dieu est là. On fuirait devant les hommes et on oublie de fuir devant Dieu. Alors dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres. Revêtons les armes de la lumière, parce que comme on va le voir, nous vivons des temps particuliers et il y a un combat. Que celui qui n'est pas dans le combat prenne garde et fasse attention, c'est un signe qu'il est en train de dormir. Au verset 18, nous lisons encore, « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » Elle est terrible, cette parole. On donnera à celui qui a, celui qui a vraiment le témoignage de Jésus-Christ dans sa vie, on lui donnera, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Et parfois, les chrétiens, nous croyons avoir des choses. Les non-chrétiens encore plus, nous croyons avoir des choses, mais tant que Jésus, le Messie d'Israël, le Saint de Dieu, par son Saint-Esprit, n'est pas rentré réellement dans notre vie, par une repentance réelle, c'est-à-dire 180 degrés, on se retourne d'un côté à l'autre. 180 degrés, j'étais dans le monde, ma vie était faite pour le monde. Quand Jésus dit « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche », se repentir, c'est un choix. Et si Jésus l'a dit, c'est quelque chose de possible. Et si Jésus l'a dit, nous ne ferons pas de Jésus un menteur, c'est qu'on peut se repentir, se retourner et retourner à Dieu. Amen. Totalement. Amen. Alors, nous confier dans ce sacrifice de Jésus, mort pour nos péchés, ce sang qui a coulé pour nous laver de toutes nos fautes et recevoir cette promesse qui est pour nous et pour nos enfants, le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu, le roi Rakodesh, disons-nous en hébreu, c'est l'esprit de sainteté. Et la sainteté, Kadosh, ça veut dire séparé. C'est l'esprit qui nous sépare. Alors on pourra dire comme Paul, ce monde il est crucifié pour moi, comme je suis moi-même crucifié pour le monde. Ma vie présente dans la chair, dans ce corps, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui s'est livré pour moi. Et cet esprit de sainteté, il va nous séparer, il va nous mettre à part. Il va préparer cette épouse revêtue de Christ, dépouillée des œuvres de ténèbres, formé par Christ lui-même, par l'onction de Dieu qui n'est pas mensongère, enseignant son peuple, chacun pour sa part et au travers des ministères donnés à l'Église, pour l'édification du corps, jusqu'à ce que nous soyons parvenus tous à la perfection, à l'unité de la foi, à être des hommes, et je rajoute des femmes, faites en Christ, qui ont le poids de Dieu, tout le poids de Dieu. Mais parfois, vous voyez, on croit avoir des choses. Même en tant que chrétien, on croit avoir des choses. Que Dieu mette sa lumière ce soir pour que vraiment on puisse avoir, je dirais, une véritable foi. Vous voyez, Jacques, voyez ce qu'il dira. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Si nous ne vivons pas Christ, nous allons être trouvés pour menteurs. Nous allons être trouvés pour menteurs. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1, « Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de salut. » Pour quiconque croit. Et il dira qu'on est sauvé par la foi et pour la foi. Par la foi et pour la foi. Le vrai signe que nous sommes réellement sauvés, ce n'est pas simplement que nous proclamons de la bouche. Vous savez, quand Paul écrit ça aux Romains, oui, nous proclamons de la bouche. Mais Paul, il écrivait ça à des Romains. Et des Romains, parfois, s'ils confessaient Jésus-Christ de leur bouche, ils étaient mis dans la fosse aux lions. Ils étaient mis en prison. Ils étaient exécutés. s'ils ne confessaient pas de leur bouche que César est le roi, mais qu'ils confessaient de leur bouche que Jésus est le roi des rois, alors ils étaient mis à mort, bien-aimés. Mis à mort. Mais nous, vous voyez, on a, si j'ose le dire comme ça, je ne dis pas que c'est le cas de cette assemblée, et je ne le crois pas, mais c'est le cas parfois de certains chrétiens qui forment les assemblées. C'est un message que je donne, je dirais, pour l'Église en général. Eh bien, nous croyons parce que nous confessons de notre bouche, nous avons, j'allais dire, falsifié la parole de Dieu. Nous avons altéré la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui est sainte, qui est pure, qui est glorieuse, qui pénètre au-delà du voile, qui pénètre nos cœurs, qui met tout en lumière. Nous prenons des versets comme ça et nous disons, « Jésus, tu es sauveur de ma vie. Jésus, tu rentres dans mon cœur. » Et nous déclarons les gens sauvés. Bien-aimés, le jour de Dieu approche, la nuit est avancée et toutes choses vont être mises en lumière. Et celui qui n'a pas réellement Jésus-Christ par sa vie, par ses œuvres, que ses œuvres, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, par notre foi seule, nous sommes justifiés. Ça veut dire rendus justes devant Dieu par notre seule foi en Jésus-Christ. Mais si cette foi reste sur nos lèvres, que nous avons l'apparence de la piété, mais que nous renions ce qui en fait la force, on a beau dire et même crier que nous sommes sauvés et chanter et danser, il n'en est rien pour Dieu. Il n'en est absolument rien par rapport à Dieu. Dieu connaît les siens. Dieu connaît les siens. Nous lisons dans Timothée 2, 19, la deuxième lettre de Timothée. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau, comme disait le frère. Avec ses paroles qui lui servent de tampon, qui lui servent de sceau. Le solide fondement de Dieu et pas des hommes y subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, qu'il sorte de l'iniquité. Vous savez, j'aimerais vous partager cette parole de Matthieu 7, une parole qui, selon moi, est terrible quand Dieu nous la révèle vraiment. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je répète, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, nous parlons de ce jour de Dieu qui vient bientôt, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, il l'appelle Seigneur, n'est-ce pas ? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors, je m'arrête là. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ? C'est des gens qui l'appellent Seigneur. C'est des gens qui prophétisent. C'est des gens qui chassent des démons. C'est des gens qui ont fait beaucoup de miracles. Alors qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Des gens qui ont fait beaucoup de miracles au nom de Jésus vont être surpris dans ce jour-là. Ils vont lui dire, Seigneur, 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 écoutez ce que leur dira Jésus. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Dieu connaît les siens. Et son sceau, son tampon, c'est que ceux qui prononcent le nom du Seigneur, ils s'éloignent de l'iniquité. Vous savez, il y a des serviteurs de Dieu, des chrétiens, qui peuvent guérir, j'espère que je ne vous choque pas, authentiquement, au nom de Jésus, mais demeurer dans une certaine iniquité. Parce que Dieu va honorer la foi, même de ceux qui s'avancent. Dieu va manifester ses dons dans l'Église pour le bien du corps de ceux qui le cherchent. Mais quand on arrivera à ce jour, on sera chacun pour sa part devant Dieu. Voyez le prophète Zacharie, quand il parle d'Israël, qui aura cet esprit de grâce et de supplication, reconnaissant ce qu'ils ont percé. Il dira que toutes les tribus d'Israël pleureront en famille, chacune pour sa part. Vous lire ça dans le prophète Zacharie. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en ce jour-là, on ne sera plus tous ensemble, bien-aimés. On sera seul à seul devant Dieu. Et ce qui pèsera dans nos vies, ce ne sera pas les miracles qu'on aura faits, ce ne sera pas les prophéties qu'on aura données, ce ne sera pas même d'avoir chassé des démons, d'avoir dit bien des choses, d'avoir paru devant les uns et les autres bien des choses, mais ce sera le poids de Christ. Est-ce qu'on est connu? Et est-ce qu'on s'est vraiment repenti? Est-ce qu'on a vraiment trouvé une foi en Jésus? Et une foi qui nous fait vaincre le malin? Qui ne nous fait plus pécher, mais marcher dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie? La repentance et la foi, c'est quelque chose de continu. Il est une chose de se proclamer sauvé. Il est une chose de se faire baptiser. Il en est une autre de marcher avec Dieu. Vous voyez, cet après-midi, alors que je priais même depuis cette nuit, depuis ce matin, j'ai sans cesse cette parole d'Enoch qui est venue à mon esprit. Enoch qui marchait avec Dieu. Enoch qui marchait avec Dieu et qui a été enlevé auprès de Dieu. Et je crois que le Seigneur veut me dire à moi le premier, mais à nous tous, si nous ne marchons pas avec Dieu, nous pouvons être en train de nous faire illusion. On peut vivre beaucoup de choses, même beaucoup d'expériences, mais qui marche avec Dieu? Comme le disait l'Éternel à son prophète Ésaïe, chapitre 6, qui se lèvera et marchera pour nous. Et marchera pour nous. Comme le dit Romains 8, cette loi qui nous condamnait, elle se trouve accomplie en Jésus-Christ si nous marchons par l'Esprit et non selon la chair. Et non selon la chair. Si nous avons une repentance et une vie de foi continue, continue, le jour approche, dépouillons-nous de toutes les œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière, bien-aimés. Et revêtons ces armes de la lumière. Celui, 1 Jean 3, verset 8, celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu, cette semence de la nouvelle naissance, demeure en lui. Elle demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et vous voyez, il vient un temps, et je crois que nous y sommes de plus en plus, où Dieu va faire son tri. Vous voyez, bien-aimés, comment nous savons que le jour approche? Comment nous savons que le jour approche et que nous faisons bien de marcher comme en plein jour, honnêtement, loin des orgies et de l'ivronnerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies, mais de nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ et de ne pas avoir soin de la chair pour en satisfaire les convoitises? Comment savons-nous que ce jour approche? Eh bien, vous savez que Jésus a dit, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Alors attention, ne nous laissons pas séduire par quelques personnes qui dira, telle année, tel jour, le Seigneur reviendra. Mais j'aimerais vous dire que Dieu, dans sa parole, nous donne des signes clairs qui nous permettent de nous positionner afin que nous soyons préparés. Afin que nous soyons préparés. Et Dieu, bien-aimé, avant d'être simplement, même si c'est quelque chose de très grand, le sauveur de nos âmes, il est le Dieu de l'histoire. Dieu tient tout dans sa main. Et depuis la chute d'Adam, Dieu, pourrait-on dire, a un plan de salut. Un plan de salut. Et par sa souveraineté, il tient tout dans sa main pour que cette histoire des hommes à laquelle nous participons arrive à un but. Et ce but, c'est son règne. Ce but, c'est son royaume. Ce royaume millénaire, comme nous le lisons dans l'Apocalypse. Ce règne de Dieu sur la terre. Puis après ce grand jugement, la Jérusalem céleste. Et donc, bien-aimés, n'oublions jamais que nous sommes faits pour le règne de Dieu. Que nous sommes faits pour ce royaume. Parce que parfois, même si c'est quelque chose de très grand, nous regardons, si j'ose le dire, seulement au salut de notre âme. Mais le grand salut de Dieu, il n'est pas simplement, même si c'est grand, de sauver nos âmes. Il est d'établir son règne. Il est d'établir son règne. Il est que nous puissions, comme je l'ai dit tout à l'heure, être glorifiés et régner avec lui. Qu'il établisse son règne depuis Sion, depuis Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Et on est fait pour ce royaume. Et Dieu, au travers de l'histoire des hommes, a pu sauver bien des âmes. Mais ce qu'il prépare, c'est le jour où il va revenir et où il va alors établir son règne. Et tout au long de l'histoire, nous avons des jalons, nous avons des étapes, nous avons des enseignements qui nous montrent l'avancement de ce plan du salut de Dieu. Vous savez que la Genèse, c'est un livre qui pose toutes les bases de notre foi. Et les érudits de la parole de Dieu, eh bien, ils ont perçu au travers de la Genèse que c'était peut-être le livre le plus prophétique. Le livre qui pose les bases, mais qui annonce les choses à venir. Et dans le livre de la Genèse, bien-aimé, nous lisons ceci. Genèse 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. » Et verset 16, « À la quatrième génération, ils reviendront ici, sur la terre d'Israël, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Et Jésus, en Luc 21, verset 24, va nous donner, je dirais, la clé, le signe, pour savoir que le jour approche et qu'on fait bien de le prendre très, très, très au sérieux. Le signe que son royaume vient, qu'il va l'établir et qu'il nous faut nous dépouiller de toute chose et être prêt à son retour. Le cœur de ce que je viens vous dire ce soir, c'est le Seigneur vient bientôt. Craignons son saint nom. Soyons prêts. Marchons jusqu'à ce qu'il vienne. Et Jésus, comme dans beaucoup de paroles de ce qu'on dit le Nouveau Testament, et j'aime pas trop dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, parce que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et se complète, et c'est cette pensée occidentale, cette séparation qu'il y a eu entre Israël et l'Église, et qui fait souvent de nous une Église plus païenne que ce que l'on croit. Eh bien Jésus, plus j'étudie l'Écriture, plus je me rends compte que, sans exagérer, presque derrière chaque parole de Jésus, il y a une parole de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et là, il y a une base capitale pour nous de comprendre. Au verset 24 de Luc 21, Jésus dit, « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée », en parlant des habitants de Jérusalem, qui étaient là au temps de Jésus. Il dit ceci dans ce qu'on appelle les discours eschatologiques de Jésus, qui parlent de la fin des temps. Quand les apôtres lui demandent, « À quel signe ?» Quand est-ce que ces choses vont arriver? Quand est-ce que les choses dernières vont arriver? Alors j'ai pris juste quelques versets pour aller vite. En gros, ce que dit Jésus dit, voyez, ce peuple qui est là, et il parlait du temple notamment. Les apôtres disaient, ce temple, il est magnifique. Il dit, il va être détruit, ce temple. Il ne restera pas pierre sur pierre. Et alors il dira, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, les Israélites, les Juifs, si vous voulez, les Juifs étant qu'une des 12 tribus d'Israël, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Alors avant de revenir sur la Genèse, je veux expliquer tout simplement, qu'est-ce que dit Jésus ? Il dit, ce temple, il va être détruit. C'est ce qui s'est passé avec Titus, l'empereur romain monté contre Jérusalem. En 70 après Jésus-Christ, le temple a été complètement détruit. Et il dit, les Juifs vont être emmenés captifs parmi toutes les nations. Et dans les actes des apôtres, quand les apôtres demandent à Jésus, est-ce en ce temps que tu restaureras la royauté en Israël ? Parce qu'eux étaient clairs de ce que nous sommes parfois pas clairs. Que Jésus venait instaurer son règne, son royaume depuis Jérusalem. Est-ce en ce temps, toi qui nous sauves, toi qui nous parles de salut, que ton règne va venir ? Comme il l'avait enseigné à ses disciples, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, établir son règne. Eh bien Jésus leur dit non aux apôtres, vous, vous n'avez pas à savoir, mais vous allez être mes témoins. Ici à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jérusalem va être foulée aux pieds par les nations. Et c'est ce qui s'est passé. Divers empires se sont succédés et Jérusalem a été foulée aux pieds par les nations. Et pendant que Jérusalem était foulée aux pieds par les nations, tous les Juifs ont bel et bien été dispersés parmi toutes les nations de la terre. Et au même moment que ces Juifs ont été amenés captifs parmi toutes les nations, l'évangile s'est répandu parmi toutes les nations. Ce qu'on appelle le temps des nations, le temps de la grâce, le temps d'être des témoins et d'annoncer la bonne nouvelle. Et Jésus, quand il répond à ses disciples, « Quand est-ce que viendra la fin ?» Il leur dit, « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations » jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Ça veut dire, Jérusalem sera foulée aux pieds, les Juifs seront dispersés, et lorsque Jérusalem redeviendra Jérusalem, alors ce sera la fin. Alors ce temps des nations sera bientôt terminé. Est-ce que vous me comprenez bien ? Ce temps des nations sera accompli. Ce temps de témoignage, ce temps de la grâce. Lorsque vous verrez, comme l'ont prophétisé, on pourrait passer la nuit, bien-aimés, à lire tous les prophètes qui ont parlé de ce retour des captifs d'Israël sur leur terre. En 1948, David Ben-Gurion a proclamé l'indépendance de l'État d'Israël. En 1967, Jérusalem est redevenue la capitale d'Israël. Et là, pour quiconque connaît la parole de Dieu, je dirais que c'était en 67 l'année la plus importante où Dieu sonnait un grand coup de trompette, un grand coup de chauffard en disant « Attention, ce que j'ai dit est en train de s'accomplir. » Les Juifs ont été dispersés parmi toutes les nations, l'Évangile a été prêché, Jérusalem a été foulée aux pieds par les nations, mais maintenant les Juifs sont revenus sur leur terre, et Jérusalem redevient la capitale. Attention, le Seigneur revient pour établir son règne. Et ça, c'est le signe des signes. Tout au fil des siècles, nos pères dans la foi, pourrait-on dire, vivaient dans la proximité du retour du Seigneur. Parce que quiconque est rempli du Saint-Esprit est prêt au retour de son Dieu. C'est une épouse qui est préparée pour son époux. Le Saint-Esprit en nous nous fait soupirer après le retour du Seigneur. L'Esprit et l'épouse disent viens, n'est-ce pas ? Que celui qui entend dise viens. Donc celui qui entend, celui qui est vraiment l'épouse, qui est mue par l'Esprit de Dieu, dit viens. Donc depuis des siècles, lorsqu'il y a eu des réveils, on a dit « Viens, Seigneur Jésus !» On a dit « Le Seigneur revient !» Lors du dernier grand réveil de Pentecôte, dont nous sommes les fruits, C'était, si je ne me trompe pas, Jésus baptise, Jésus guérit, Jésus revient. Peut-être que j'en oublie, Jésus revient. Mais vous voyez, bien-aimés, si Dieu a fait ce grand réveil de Pentecôte, et au même moment, les captifs d'Israël revenaient sur leur terre, c'était parce que le temps des nations touchait à sa fin. Et aujourd'hui, nous pouvons être remplis du Saint-Esprit comme nos pères et dire « Viens Seigneur Jésus ». Mais nous avons un signe et le monde a un signe sous les yeux qu'il revient bientôt. Un signe que nos pères n'avaient pas. Et c'est l'État d'Israël, ce petit bout de pays que tout le monde attaque, que tout le monde haït de plus en plus. Et ça, c'est des choses qui sont annoncées par les prophètes. Il y a un antisémitisme qui est aujourd'hui un antisionisme qui grandit, grandit et va continuer de grandir. Et Israël sera de plus en plus attaqué, sera de plus en plus seul. Parce que comme l'a dit notamment le prophète Zacharie, Jérusalem va devenir la pierre pesante pour les nations. Parce qu'elle est le signe concret, réel, que Dieu est bien vivant. Il avait dit au travers du prophète Ézéchiel, « Je sanctifierai mon nom parmi les nations. » En ramenant les réchappés d'Israël sur cette terre d'Israël, « Je sanctifierai mon nom parmi les nations. » Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Israël, et Jérusalem en particulier, c'est une pierre d'achoppement pour toutes les nations, parce qu'elle est le sceau que Dieu est bien vivant, qu'il a répondu à ses promesses, qui dataient de plus de 2000 ans, bien-aimés. Et Jérusalem est là en place. Et si tu regardes Jérusalem, eh bien, tu sais que le Seigneur est à la porte. Alors, bien-aimés, revenons maintenant à la Genèse. Jésus cite, si vous faites la transcription du grec en hébreu, de ce Luc 21-24, vous avez presque exactement le verset de la Genèse que l'on a lu. Et vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ces versets. Il nous est dit, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et Abraham, qui était sur la terre d'Israël, il dit, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Vous voyez, c'est exactement ce qui s'est passé, ce que Jésus a dit. Hein, les Juifs qui vont être dispersés parmi toute la terre, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. 400 ans est un temps d'épreuve, un temps de repentance. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour les Juifs, opprimés parmi toutes les nations pendant 2000 ans. Et alors il dit, à la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. C'est exactement la même structure de phrase en hébreu. Et qu'est-ce que Jésus a donc voulu dire ? Abraham, qui est devenu Abraham, Dieu lui a montré que ses descendants iraient en Égypte, iraient parmi les nations, qu'ils seraient opprimés et qu'ils reviendraient que 400 ans après parce que l'iniquité, le péché des Amoréens n'était pas encore arrivé à son comble. Sous-entendu, quand les descendants reviendront sur la terre, ce sera un jour de jugement. Cela arrivera quand le péché sera arrivé à son comble. Et Jésus reprend ses paroles pour lui et il dit, il y aura le temps de la grâce, le temps des nations. Les Israélites, les Juifs seront parmi toutes les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et il cite, pour n'importe quel Juif comprenait ça, vous comprenez ? Des gens qui étaient versés dans la Torah. Et il voulait dire, Israël redeviendra une nation. Et Jérusalem arrêtera d'être foulée aux pieds par les nations et redeviendra indépendante lorsque le comble du péché parmi les nations sera atteint. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que tout simplement, si aujourd'hui Jérusalem est à sa place, c'est que le comble du péché est parmi nous, bien-aimés. D'ailleurs, ce n'est pas du tout anodin qu'en 1967, Jérusalem ait été retrouvée après la guerre des six jours comme la capitale éternelle d'Israël. Et en mai 68, nous avons eu cette révolution du péché, pourrait-on dire. que l'apôtre Paul avait annoncé, notamment par Timothée. Ce temps où on méprisera l'autorité, les parents, on sera égoïste, fanfaron, ami de l'argent, et toutes ces choses. Et donc, si aujourd'hui Jérusalem est en place, c'est que le comble du péché, il est parmi nous, bien-aimés. C'est que le comble du péché est parmi nous. Et j'aimerais vous crier avec mon cœur ce soir, si le comble du péché est parmi nous, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est quelque chose de terrible. On pourrait dire là, rapidement, oui, c'est le comble du péché, Jérusalem redevient capitale, le Seigneur revient bientôt, alléluia. Mais lorsqu'on a l'esprit de sainteté, on sait qu'on est en danger. Jésus a dit, seulement ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Et si nous vivons le comble du péché, et c'est un point capital que j'aimerais donner, nous sommes en danger, bien-aimés. Le diable, si le but de Dieu au travers de la manière dont il a conduit l'histoire, on pourrait parler beaucoup plus pour comprendre au travers de la Genèse, des prophètes, qu'est-ce qui nous fait dire que nous sommes vraiment dans la fin des temps. Dieu a donné un plan de salut qui est clair pour celui qui arrive à le voir. Mais le simple fait de Jérusalem, voyez comme on dit, c'est l'argument massue. Il n'y a pas besoin de dire beaucoup plus. Si Jérusalem est là, c'est que le Seigneur revient. Et son but, c'est d'établir son règne. Et que nous fassions partie de son règne. Eh bien, de la même manière, le diable, au fil de l'histoire, il a eu qu'un seul but. C'est qu'on ne fasse pas partie de son règne, mais c'est qu'il nous prenne avec lui dans sa défaite. Parce que l'enfer, ce n'est pas le règne du diable. Ce n'est pas le royaume du diable, l'enfer. C'est la défaite du diable. Seul Dieu règne. Seul Dieu est Seigneur. Le diable est un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et le diable, depuis le début de l'histoire, dans sa défaite, il veut nous prendre avec lui. Dans ce qui sera pas son règne, mais sa défaite, son humiliation, il veut nous prendre avec lui. Et bien aimé, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de se réveiller. On a besoin de vivre un réveil, parce que je prêchais dernièrement sur le livre d'Abdias, le prophète Abdias, qui est un message prophétique pour notre temps, où j'ai parlé notamment de l'islam. Et un frère, après la réunion, est venu vers moi et m'a dit, « Vous savez, je crois que le plus grand danger, ce n'est pas l'islam, mais c'est notre tiédeur. C'est le fait qu'on est comme anesthésié, qu'on dort. » Et je lui ai dit, « Frère, j'ai prêché sur Abdias, j'ai parlé de l'islam, mais je suis convaincu de ce que vous me dites. Et c'est vrai. Notre plus grand danger, c'est de dormir. En Chine, en Inde, où Dieu sauve encore des âmes, lorsqu'ils sont dans la persécution, ils sont, je dirais, obligés d'être bouillants pour le Seigneur. Ils sont obligés de vraiment confesser le nom de Jésus. Sinon, ils vont se ranger, vous savez, du côté de l'ennemi. Si on tient dans ces pays, c'est parce qu'on est sauvé par la foi et qu'on vit par la foi et qu'on a vraiment Jésus-Christ. Mais dans nos pays, où le comble du péché est là, eh bien on a une beaucoup plus grande persécution, un beaucoup plus grand danger, c'est la tiédeur. Vous savez, le diable, il n'est pas celui qui va sauter et crier et se faire voir. J'aime à l'appeler le malin. Il est malin. Il agit subtilement. Il agit pour pas se faire voir. Et je crois que nous vivons dans ce comble du péché et que même nous, serviteurs de Dieu, nous ne nous en rendons pas compte. Il y a une tiédeur qui nous guette. On a tous avalé un somnifère diabolique. Le diable, c'est pas biblique ce que je dis, c'est pour faire comprendre mon idée. C'est pour son Église en particulier, pour ce monde, comme une drogue douce, vous comprenez? Comme une drogue douce qui nous endort. Elle ne nous secoue pas et on voit, oulala, il y a un problème. C'est un esprit de séduction. Et le propre de la séduction, c'est qu'il y a, on ne la voit pas, elle est cachée, elle est déguisée. Parfois même dans l'Église, il y a de nombreuses séductions. Nous vivons un temps d'apostasie aujourd'hui, où les séductions pullulent dans l'Église. Et parfois, il y a des chrétiens, s'ils ne sont pas retournés, comme je le disais tout à l'heure, à 180 degrés, s'ils ne sont pas remplis de l'esprit de la sainteté, s'ils ne sont pas séparés, si la parole de Dieu n'est pas réellement au centre de leur vie, comme une pierre pesante, comme un renouvellement de la pensée quotidienne pour discerner quelle est la volonté de Dieu, on ne voit pas la séduction. Oh, des fois, j'ai parlé avec des frères qui me disaient « Ah, mais tu crois vraiment que cet homme est un faux prophète ?» Et des fois, il faut du temps pour comprendre, des discussions, parce que justement, il y a des choses vraies qui sont dites. Parfois même, il y a des miracles, parfois même, il y a des prophéties. Mais il y a pourtant un vrai faux prophète, vous voyez. Il y a pourtant vraiment un faux prophète. Et le diable agit par sa séduction. Et j'aimerais tout simplement vous dire aujourd'hui que la persécution et la séduction dans laquelle on se trouve, par le fait qu'on soit dans le comble du péché, elle est cachée. Elle est cachée, elle est subtile, et même le peuple de Dieu, subtilement, il peut se laisser endormir. Parions dans la voiture, je peux me permettre de le dire, frère Pasqualine disait qu'il avait été poussé à relire les Actes des Apôtres, voyant, je dirais, la qualité de ces hommes et de ces femmes de Dieu, ou combien Christ était dans leur vie. Oui, les miracles, oui, les prophéties, plein de choses, mais surtout des hommes prêts à verser leur sang, des hommes passionnés, des hommes zélés, des hommes pleins de feu, bien-aimés, pleins de feu. Eh bien, vous voyez, ces hommes, s'ils étaient transportés et qu'ils étaient là aujourd'hui avec nous, eh bien, je crois qu'ils auraient le même problème que nous. Et ce problème, c'est de devenir tiède. Ce problème, c'est de subtilement se laisser endormir et de perdre ce feu, de perdre ce premier amour. Et plus que jamais aujourd'hui, si nous sommes dans le comble du péché, à la fin des temps, je le répète, si Jérusalem est là, le comble du péché est parmi nous. Eh bien, plus que jamais, eh bien, on est appelé à vivre de ce feu, bien-aimé. On est appelé à avoir beaucoup de sagesse. On est appelé à faire attention comment nous marchons, là où nous mettons nos pas, qu'est-ce que nous disons, qu'est-ce que nous entendons. On est appelé à user de beaucoup et de beaucoup de discernement. Parce que ce jugement de Dieu vient, et la Bible nous dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Alors l'apôtre nous dit, jugez-vous vous-même afin que vous ne soyez pas jugés. On est appelé à se laisser juger soi-même, à laisser toute la lumière de Dieu, comme je le disais tout à l'heure, venir sur nous, parce qu'on peut se faire tromper. Plus que jamais, aujourd'hui, même si l'onction ne coule pas, il est temps de jeûner et de prier. Il est temps de se rassembler. C'est normal qu'il y ait du combat. C'est normal qu'il y ait du combat. C'est normal même que nous voyions moins de miracles, moins de prophéties. Parce que le temps des nations, le temps de la grâce touche à sa fin. On arrive à la fin des temps. Jésus, vous savez ce qu'il a dit ? Il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire avec ses anges, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Trouvera-t-il la foi sur la terre ? L'apostasie, ça veut dire l'abandon de la foi. Subtilement, on abandonne la saine doctrine et on abandonne, j'ai envie de dire, la passion dans la prière, la passion pour le nom de Dieu, ce désir de ressembler à Jésus. Parfois, il y a des jeunes serviteurs qui veulent être derrière une chaire, qui veulent diriger les cantiques, qui veulent faire des choses pour Dieu. Qui c'est qui veut ressembler à Jésus ? Qui c'est qui veut ressembler à Jésus quand personne le regarde ? Quand personne le voit, si ce n'est Dieu qui sait toutes choses. Nous aurons beaucoup de surprises, vous savez, au dernier jour. Beaucoup de derniers, de premiers seront derniers, et de derniers seront les premiers. Dieu te regarde dans ton foyer, mon frère, ma sœur. Dieu te regarde de la manière dont tu te comportes avec ton épouse. C'est là que Dieu regarde plus. Et non pas quand on est derrière la chaire, quand on prie, quand on est à l'église, quand on a des réunions de prière. Dieu regarde souvent là où le cœur de l'homme ne regarde pas. Alors ce soir, si on pouvait s'arrêter et demander à la lumière de Dieu de venir sur nos vies et de nous montrer là où nous ne voyons pas. Comme le dit le psalmiste, par ta lumière, nous voyons la lumière. Sans la lumière de Dieu, on peut être des inconscients. Et le diable, dans le comble du péché, est très 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 subtil. Vous savez, Jésus, lorsqu'il s'est fait baptiser par Jean, au Jourdain, le ciel s'est ouvert, une voix s'est fait entendre du ciel, et cette voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Et la colombe du Saint-Esprit est descendue sur lui. Jésus a été proclamé fils de Dieu à ce moment-là. Alors il est parti pendant 40 jours au désert. Et après ces 40 jours, le diable est venu vers lui pour le tenter. Et là, vous savez ce qu'a fait Jésus. Il a montré, j'aimerais dire, il a prouvé, il a manifesté, non pas par la voix qui venait du ciel, mais par sa propre vie, qu'il était bien le Fils de Dieu. Il est une chose que de proclamer, qu'on dise des choses sur nous, mais qui montre par sa vie, et parfois même dans l'épreuve, et nous sommes dans l'épreuve, il y a un combat puissant. Si on n'est pas secoué, bien-aimé, si on n'est pas réveillé, vraiment réveillé, si nous ne faisons pas l'expérience quotidienne de la puissance du Saint-Esprit, de la vie du Saint-Esprit, de la force de Dieu en nous, nous allons nous laisser endormir automatiquement. Nous allons avoir l'apparence de la piété, mais à quelque part, on va renier ce qui en fait la force. Qu'est-ce que c'est la force de Dieu? C'est qu'on est réellement sauvé de cette génération perverse. C'est ce que disait Pierre, sauvez-vous de cette génération perverse. C'est ce que disait le prophète Ésaïe, sortez de Babylone, ô mon peuple. Qui se dit chrétien est encore mondain? Qui est encore dans des convoitises charnelles? Qui est encore jaloux? Qui est-ce qui juge encore son frère ou sa sœur? Qui est-ce qui s'énerve? Qui est-ce qui est orgueilleux? Qui est-ce qui est encore attiré par le monde? Attiré par sa chair. La force de Dieu, elle nous libère, bien-aimés. Elle nous libère du monde. Elle nous libère de cette puissance charnelle. Cette nature que nous avons héritée du péché. Elle a la force de nous libérer. Elle a la force de faire vraiment de nous des fils et des filles du Dieu Tout-Puissant qui se séparent, qui sont réellement mis à part. Elle a la force de faire de nous vraiment des gens libres, des gens réellement heureux, des gens délivrés réellement, non seulement de puissance, mais surtout de notre propre nature. Des gens qui marchent par le Saint-Esprit. Des gens qui montrent par leur vie les fruits du Saint-Esprit. Oh, souvent au début de ma conversion, je priais pour les charismes. Oh, donne-moi parole de connaissance. Donne-moi l'interprétation des langues. Donne-moi la prophétie. Ce n'est pas que je suis devenu tiède, mais de plus en plus, je prie pour que le Saint-Esprit me donne, avant de manifester les charismes, même si les charismes doivent être manifestés dans l'Église. Amen. Mais de manifester les fruits de l'Esprit et les dons du Saint-Esprit. Le conseil, la sagesse, on en a absolument besoin. Aujourd'hui, Dieu veut une Église qui marche dans ses fruits et dans ses dons. Des gens qui ressemblent réellement à Jésus-Christ. Des gens qui ressemblent réellement à Jésus-Christ. Et vous voyez, soyons comme Jésus. Si lors de notre conversion, nous avons proclamé qu'il est le Fils de Dieu, nous avons reçu des paroles, à nous de prouver dans le désert que nous sommes réellement les fils de Dieu. C'est ce qui s'est passé pour Israël. Israël est sorti d'Égypte. Ils ont mis le sang sur les linteaux de leurs portes. L'ange exterminateur ne les a pas touchés. Ils ont passé la mer Rouge. Ils ont chanté, Exode 15, avec des tambourins. Danser devant l'Éternel, il l'a jeté à l'eau, cheval et cavalier de Pharaon. Nous sommes sauvés. Dieu avait fait ce miracle. Mais ensuite, Dieu a regardé ce peuple qui me chante, ce peuple qui me loue. Est-ce qu'il est vraiment un peuple sauvé de l'Éternel? Si Jésus, la réponse est oui, il est bien le Fils de Dieu, la plupart des enfants d'Israël, bien-aimés, la réponse a été non. ils ont quasiment tous péri dans le désert. Et l'apôtre Paul dit que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Pour nous servir d'exemple. Et j'aimerais vous lire encore un passage de Luc 4, verset 13, qui nous dit, après ce temps de tentation, il nous est dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Le diable, après avoir tenté Jésus, s'est éloigné de lui jusqu'au moment favorable. J'aimerais vous dire que le moment favorable pour le diable, c'est maintenant. Il sait que ses jours sont comptés, comme dit l'Apocalypse. Malheur à la terre, il sait qu'il est dans la défaite, que Dieu va régner sur lui, qu'il va écraser de ses pieds et que tout l'enfer confessera qu'il est le Fils de Dieu et qu'ils seront dans la défaite. Le diable sait, il sait que Jérusalem est la capitale d'Israël. Il sait que ses jours sont comptés. Alors plus que jamais dans toute l'histoire, il est déchaîné, bien-aimé. Et le temps favorable du diable pour nous séduire, il est ici. Il est maintenant. Il est maintenant. Et vous voyez, nous sommes appelés, si nous voulons nous dire vraiment des fils et des filles de Dieu, je crois que nous sommes appelés à être des combattants de la prière aujourd'hui. Comme Jésus, nous sommes appelés à vivre Gethsemane. Il l'a quitté jusqu'à un moment favorable. Quel était ce moment favorable? Gethsemane. À Gethsemane, notre grand Seigneur était à terre, à genoux, et il transpirait du sang. Il agonisait, bien-aimé. Il agonisait. Et j'ai peur que si nous sommes trop légers et que nous n'agonisons pas parfois nous-mêmes dans la prière, que nous voulons nous donner une apparence de piété, eh bien nous soyons des gens encore séduits, encore dans des œuvres de ténèbres. Peut-être que les gens ne savent pas, comme j'ai dit tout à l'heure, mais encore dans des œuvres de ténèbres. On proclame souvent l'Évangile, il faut le proclamer, mais après il faut vivre par la foi. Il faut marcher honnêtement comme en plein jour. Et aujourd'hui, je crois que tout vrai croyant, il vit d'une certaine manière Gethsemane. Parce que ce monde, moi je n'ai pas honte de le dire, il est puissant. Ce monde, il est puissant. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Que celui qui croit être quelque chose alors qu'il n'est rien, comprenne qu'il s'abuse lui-même. Alors, unissons-nous à Jésus. Qui à Gethsemane était dans l'agonie, et il était prêt à aller jusqu'à la croix. Vivons la croix, bien-aimés. Dépouillons-nous des œuvres de ténèbres. Vivons toute la croix. S'il y a quelques pensées qui nous tentent, déchirons nos cœurs et nos vêtements, bien-aimés. C'est le temps de déchirer nos cœurs. C'est le temps de se défricher un champ nouveau. C'est le temps de mourir à soi-même. Parce que ce royaume vient. La glorification de nos corps vient. Ne nous laissons pas nos corps être souillés. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et si tu détruis ce temple, Dieu te détruira. Alors soyons comme Jésus à Gethsemane. Comprenons que ce temps est là. Et bien aimé, vous savez, ce grand homme de Dieu, David Wilkerson, il a dit ceci. Si Dieu ne juge pas notre génération, alors il devra ressusciter celle de Sodome et Gomorre. Comprenez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut exprimer ce que je suis en train d'essayer de vous dire. Lui, c'est un homme, connaissant un petit peu sa vie, qui passe beaucoup de temps dans le lieu secret. Combien de temps on passe dans le lieu secret? Seul à seul avec Dieu. Il est bon de venir à des réunions, mais combien de temps on passe seul à seul avec Dieu? David Wilkerson, c'est quelqu'un qui passe des heures seul à seul avec Dieu. Eh bien, ainsi ses yeux s'ouvrent sur ce comble du péché si subtil qui endort l'Église. Et il peut dire, cette génération d'aujourd'hui, elle est pire que Sodome et Gomorre. Alors ma question c'est, est-ce que tu es comme Lot? Lot, il torturait son âme. Il torturait son âme nuit et jour. Est-ce que ton âme est un petit peu torturée quand tu vois le péché, ou est-ce que tu t'es habitué à vivre dans ce monde de péché, ou parfois dans une église séduite? Ne nous laissons pas subtilement avoir, mais soyons comme Lot, comme Jésus surtout, à Gethsemane, et agonisons dans la prière, passons du temps dans la prière. Et alors comme Lot, et c'est ces paroles que reprend Jésus, ça fait partie des nombreuses paroles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Lot, il a dû aller droit en avant sans regarder en arrière. Et c'est la parole que Jésus reprend dans l'évangile de Luc. Si quelqu'un met la main à la charrue en regardant en arrière, il est impropre au royaume de Dieu. C'est le temps de nous dépouiller, de mettre la main à la charrue et de plus jamais regarder en arrière, mais de marcher et de marcher encore. Faisons la volonté de Dieu. Ne soyons pas de ceux à qui Jésus dira ouvertement « Allez-vous-en, je ne vous ai jamais connu ». Tout ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de réellement faire la volonté de Dieu. Et je crois que plus on aura la crainte de Dieu, plus on fera la volonté de Dieu, plus on désirera les choses de l'esprit et on ne s'affectionnera pas aux choses de la chair, plus nous serons réellement circoncis. Je répète, nous sommes sauvés par la foi seule, comme le dit l'Épître aux Romains. Abraham, avant même sa circoncision, il a cru à Dieu et c'est cela qui lui fut imputé à justice. Mais il a reçu la circoncision comme un sceau. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être circoncis. Circoncis de cœur. Comme le dit Colossiens, eh bien, on était perdus, bien-aimés, à cause de nos offenses et de l'incirconcision de notre chair. Et on est appelé à se dépouiller de cette chair. Est-ce que le sceau de la circoncision est fait dans nos vies? Réveillons-nous parce que le temps est proche de faire face à face avec le Dieu de gloire. Il est venu comme un agneau pour nous sauver. Il est encore là ce soir pour purifier tous nos péchés. Mais quand il viendra dans sa gloire, il viendra avec des yeux de feu, bien-aimé. Il viendra comme le lion de la tribu de Judas. Et tout le monde tremblera. L'Apocalypse dit que les gens demanderont aux montagnes de se jeter sur eux, qu'ils rendront l'âme de terreur. Alors aujourd'hui est encore un jour de grâce. Aujourd'hui est encore un jour de grâce. Alors, comme le dit l'apôtre Jean, et je termine par cela, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. » Et l'apôtre dira un peu plus loin, 1 Jean 3, 21, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Est-ce qu'au travers de ces paroles, tu es réellement paisible? Ou est-ce que ton cœur te condamne? Il est bon que ton cœur te condamne ce soir. Il est bon de te laisser juger par toi-même ce soir, avant que le Dieu juge revienne. Il est venu comme le Dieu de la miséricorde, il reviendra comme le Dieu de la justice. Scrutons nos cœurs ce soir. Vous savez, quand Paul dit que nous sommes sauvés par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit « Mon juste vivra par la foi », on trouve ça chez le prophète Habacuc. Et qu'est-ce que le prophète Habacuc? Un homme qui voit le jugement de Dieu arriver et dit « Qu'est-ce qu'on va faire, Seigneur? Qu'est-ce qu'on va faire ?» Et il voit que ce jugement, il est écrit, il va se faire. Mais mon juste vivra par la foi. Devant la proximité du retour du Seigneur, devant le comble du péché auquel nous avons à faire face, est-ce que nous allons être ces justes qui vivront par la foi? Est-ce qu'on peut se placer devant le Seigneur ce soir? Est-ce qu'on peut courber nos têtes devant Dieu ?